Excusez-moi, je suis un peu en avance. C'est que ça vous bénisse et qu'il nous encourage ensemble hein, dans la méditation de sa parole. Nous lisons dans le psaume 16 des paroles très intéressantes. Alors comme je vous ai peut-être déjà dit, mais il y a des passages bibliques qui ont ma préférence. Et le psaume 16 est un des passages que j'aime. Alors psaume 16... Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage, mon calice, et c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Voilà, c'est un beau psaume qui nous encourage, qui nous fortifie. C'est ce qu'on appelle un psaume messianique. C'est-à-dire que dans ce psaume, il y a un verset qui nous parle de Jésus-Christ. C'est la première prédication qu'il y a eu, première prédication de l'histoire de l'Église. C'est Pierre qui l'a prononcée. C'était le jour de la Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et ils sont sortis pour parler, hein. Ils avaient parlé de nouvelles langues et puis la foule s'est assemblée parce que les gens entendaient ces nouvelles langues et c'était leur langue. Ils entendaient des choses qu'ils n'avaient pas entendues avant. Ils entendaient les louanges de Dieu, les paroles qui rendaient grâce à Dieu. Et voilà, ils se sont donc... Pierre a prêché. Et dans cette prédication, eh bien, il a dit, voilà, c'est le... ce verset, hein, le verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Voilà pourquoi c'est un psaume messianique. C'est quelque chose de très particulier. On peut l'appliquer à Jésus-Christ. Jésus-Christ a rempli et accompli ce psaume. Si vous lisez « Je dis à l'Éternel, mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Mais notre vie chrétienne est une vie chrétienne de disciples de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre berger, c'est lui qui nous conduit. Et si nous conformons notre vie, eh bien c'est à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas une vie qui est indépendante de Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie en communion avec Jésus-Christ. Et même Paul pouvait dire « Christ est ma vie ». C'est Christ est notre joie, Christ est notre bien le plus précieux. Christ est celui qui nous accompagne et qui nous fortifie. Il est celui qui pose sa main sur nous, celui qui nous conduit dans le bon chemin, celui qui nous a fait des promesses, celui qui est fidèle et qui s'appelle fidèle et véritable. C'est avec Jésus-Christ que nous marchons et nous ne marchons pas en dehors de Jésus-Christ et nous ne pouvons pas vivre en dehors de Jésus-Christ. Donc dans ce psaume, il y a des exhortations qui d'abord c'est à Jésus-Christ et puis en plus on peut dire c'est à nous. Et d'abord ça s'est adressé au peuple d'Israël qui a entendu c'est les paroles de ce cantique hein, parce qu'il a été chanté dans les synagogues et au temple. Et quand le peuple d'Israël se réunissait, eh bien il chantait des psaumes. Et puis les chrétiens eh bien l'ont appliqué aussi à leur vie. Et quand je lis ce psaume, et c'est un de mes psaumes favoris, je l'ai pris comme une règle de foi, comme une exhortation que je me répète de temps en temps. Je reprends ce psaume et je me dis, voilà, et je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien, tu es celui en qui je place ma confiance. Tu es celui qui est le tout suffisant de ma vie. Notre vie chrétienne, c'est une vie qui est vécue pour Jésus-Christ. Elle n'est pas vécue pour nous-mêmes. Elle n'est pas vécue pour notre propre compte. Elle n'est pas vécue pour notre réussite. Pas pour notre réussite professionnelle ou notre réussite dans ce monde. Elle est vécue pour Christ. Notre vie doit se consumer pour Christ. C'est quelque chose, c'est une vérité profonde, une vérité éternelle. C'est une vérité que nous devons vivre jour après jour dans notre vie chrétienne. J'avance un petit peu trop vite, mais il y a ces paroles, le verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Alors évidemment, nous ne sommes plus du temps de Baal et d'Astarté et de tous les autres dieux de l'Antiquité. Hein. J'espère. Je crois qu'avec les nouvelles pensées, nouveau chamanisme et autres choses, je crois qu'il y a un retour en force vers ces divinités perdues et qu'on déterre les idoles. Et même, vous savez, c'était un philosophe grec, il disait que ces idoles, eh bien, on est obligé de mettre des gardes pour les protéger, parce qu'elles étaient faites en or et en argent et en bois précieux. Et même, si elles n'étaient pas faites en un bois trop précieux, elles avaient une valeur monétaire. Donc, il y avait des voleurs. Mais elles n'étaient pas capables de se garder elles-mêmes, alors les adorateurs étaient obligés de mettre des gardes pour les garder. Voilà. Donc, pour vous dire qu'elles n'étaient pas capables de défendre les adorateurs, et puisqu'on était obligé de les garder elles-mêmes. Donc, les gens qui plaçaient leur confiance en elles étaient de véritables insensés, des fous, parce que les idoles ne se gardaient pas elles-mêmes. Donc, elles ne pouvaient pas garder les adorateurs de ces idoles. Donc, elles étaient en danger d'être volé, d'être fondu et d'être coupé en morceaux. Et voilà, c'était donc la folie de ces adorateurs d'idoles. Et David, qui écrit ce psaume, dit qu'il y a des gens qui courent après les dieux étrangers. Alors évidemment, nous ne sommes plus dans ces dieux étrangers, mais nous avons nos propres dieux. Et je pense que le dieu principal que nous avons, c'est nous-mêmes. C'est notre petit moi. Et celui-là, qu'est-ce que nous l'aimons? Qu'est-ce que nous l'encensons et qu'est-ce que nous lui faisons des sacrifices? Je peux vous dire que nous sommes capables de faire des sacrifices immenses pour ce petit moi. Mais c'est une idole. Et nous devons l'appeler par son nom et dire c'est une idole. Je ne veux plus m'adorer moi-même. Je ne veux plus être le Seigneur de ma vie et mettre mon propre Dieu. Qui est notre Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est nous-mêmes? Et je vous demande de bien réfléchir. Ce ne sont pas des paroles en l'air que je prononce, ce ne sont pas des paroles pieuses pour vous dire quelque chose d'agréable ce matin. Mais je vous désire que vous reveniez à vous-même, que vous preniez conscience de certaines choses et que vous puissiez dire, c'est vrai que je suis cet homme-là ou cette femme-là ou ce jeune. C'est vrai que la personne que j'aime le plus dans ma vie, c'est moi-même. Et malheureusement, c'est la personne à qui nous sacrifions le plus, c'est à nous. Combien nous sacrifions à notre confort? Nous sommes, s'il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, eh bien nous marchandons. Mais s'il s'agit de faire quelque chose pour nous, alors Oh, bien sûr, on réfléchit, parce qu'on se dit, je ne vais pas me mettre en difficulté financière pour assouvir cette passion. Mais néanmoins, eh bien, nous sommes capables de faire de gros sacrifices pour nous-mêmes, parce qu'en fait, nous sommes nos propres dieux. À qui vous feriez le plus facilement des sacrifices? À Dieu ou à vous-même? Et la réponse, si vous êtes vraiment honnête, eh bien vous allez vous dire, c'est moi-même. Je sacrifierai à mon confort, je sacrifierai à mes passions, à mes ceci, à mes ça. Le problème, c'est qu'on n'aime pas Dieu, et on ne l'aime pas suffisamment. on ne donne pas suffisamment à Dieu. C'est Dieu ne prend pas la première place dans notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quelque part. Oh, on ne l'a pas renié devant tout le monde et prononcé les paroles. Mais par nos actions, par notre vie, est-ce que nous ne le renions pas? Est-ce que nous ne le mettons pas en dehors de nos vies pour accueillir le péché, la passion, le monde? C'est quand on réfléchit bien, si on se pose vraiment les vraies questions, eh bien on est obligé d'en convenir et de dire c'est vrai, j'ai mis Jésus-Christ en dehors de ma vie. Je crois que nous devons prendre le temps de temps en temps de nous poser ce genre de questions et nous dire, mais est-ce que je suis le chrétien que je dois être? Est-ce que j'ai fait les progrès que je dois faire? Est-ce que vraiment j'ai le désir de vivre pour Christ et de marcher pour lui et de consacrer ma vie? Si vous ne pouvez pas le dire, c'est qu'il y a des idoles dans votre vie. Je vais vous lire plusieurs passages au sujet des idoles que j'ai notés dans ma Bible. Le premier se trouve dans Jacques. Alors c'est un passage, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, je ne prononce pas un jugement, je ne dis pas des paroles dures sur vous. Mais c'est Jacques qui le dit. C'est chapitre 4, verset 4, jusqu'au verset 10, jusqu'au verset 6. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ce sont des paroles très 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 dures que je ne m'amuserai pas à prononcer devant vous. Je ne vous le dirai pas si ce n'était pas la parole de Dieu qui le dit. Mais je le prends tel que c'est dit dans la parole de Dieu, et c'est vrai que ce sont des paroles dures, et que nous devons dire, est-ce que Dieu est vraiment le premier dans ma vie, ou est-ce que c'est le monde? Il y a d'autres paroles dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est vrai que ce sont des paroles qui sont solennelles. Ce ne sont pas des paroles qui sont prononcées comme cela. C'était les premiers disciples, les premiers apôtres qui ont dit des paroles aussi dures. Et c'est vrai que nous devons en tenir compte et faire attention, parce que les idoles de ce monde, et même ces gens, tout à fait à la fin de sa première épître, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus tous ces dieux de ce monde, mais on appelle les idoles de ce monde, il y a la chanson, il y a le cinéma, il y a le sport, il y a toutes ces personnes que l'on regarde et que l'on est qui nous captivent, et le monde les appelle des idoles. Et ceux qui les suivent, eh bien, sont les fanatiques, les fans. Si vous, après un match de foot, et que le Paris Saint-Germain a perdu, et que vous portez une écharpe de l'équipe qui a, et que vous êtes dans le même métro ou le même train que celui qui, eh ben, cachez votre écharpe, enlevez-la, parce que vous risquez des problèmes, parce que ça ne s'appelle pas des fanatiques pour rien. Ce sont des fanatiques. Et ils sont capables même de vous battre et de vous faire du mal. Après, on parle du fanatisme religieux, mais moi je parle du fanatisme du sport. Et il y a un vrai fanatisme du sport qui est une véritable religion et des gens qui se prosternent et qui adorent leur équipe de foot et qui les connaissent et qui savent tout sur eux. Hein. Et je me rappelle, c'est mon père qui m'a raconté cette histoire, il y avait dans les années 30 un grand joueur de rugby. Quand il faisait un drop, il mettait la balle entre les poteaux à chaque fois. Et alors, bien sûr, son équipe gagnait. C'était à Lézignan Corbière. Et alors, vraiment, quand l'équipe arrivait dans un village, tout le monde savait que cette équipe allait gagner. Et un jour, le grand joueur, qui avait un pied en or, eh bien, a donné un coup de pied qui a raté les deux poteaux. Et l'équipe a perdu. L'équipe a perdu. Ah oui, c'était dans les années 30. C'est quelque chose, vous savez. Et vous savez ce qu'a fait ce joueur de désespoir? Il s'est suicidé. Ah non, mais il s'est suicidé. Ah oui. Et pendant des mois et des années, les gens portaient une écharpe noire, un brassard noir. On portait le deuil de ce joueur qui, le dieu, a perdu son piédestal, est tombé. Et ça, de n'être plus un dieu, ça a fait provoquer une crise de désespoir et il s'est suicidé. Le dieu était mort. Alors tout le monde portait le deuil de dieu, du dieu qui était mort. Et dans le foot et le rugby aujourd'hui, et dans tous ces sports, eh bien ce sont des dieux. Et vous dites quand même, hein, c'est nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils étaient stupides, hein. Ben, je peux vous dire, ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose. Les gens se suicident et quand un joueur perd et qu'il y a une équipe qui a perdu, il y a des gens qui ont perdu le goût de vivre. C'est comme cela. Il y a des chanteurs qui se sont suicidés et des gens se sont suicidés ensuite parce qu'ils ont dit non, mon idole est décédée. C'est comme ça. Et vous entendez ces personnes écouter de la musique sur les oreilles. C'est leur Dieu qui chante. Et si jamais ce Dieu arrive à mourir, parce que tous les hommes meurent un jour ou l'autre, hein, et ce ne sont pas des gens heureux. Ils vivent souvent sous calmants et sous antidépresseurs, je peux vous dire. Hein. Il ne faut pas examiner leur vie de trop près parce que vous seriez très déçus. Mais surtout, les adolescents sont tellement attachés à ces grands chanteurs et ils en parlent constamment, ils essayent de les imiter, ils ont leur coupe de cheveux, ils ont leurs vêtements, ils ont tout. Si on fait vendre des multitudes de choses, si jamais on apprend que ce chanteur utilise tel parfum, alors là, il faut qu'il y ait des stocks derrière. Hein. Ah là, je peux vous dire, parce que ça va défiler, hein. Ils ne tiendront pas. C'est un argument de vente. Hein. Ça va faire du bruit. Mais quand on ne me dise pas que ce ne sont pas des idoles, parce que ce sont, après tout, hein, les idolâtres, c'était dans l'Antiquité, ils avaient des Baals et des Astartés. Les idoles sont dans ce monde. Et malheureusement, nous, chrétiens, eh bien, nous avons les idoles de ce monde souvent. Et combien de nous aimons ces chanteurs, nous aimons ces équipes de foot, combien nous aimons ces artistes de cinéma et ceci. Ah, c'est un tel qui joue, ah, c'est merveilleux. Et on ne ratera pas le film, on ne ratera pas l'émission, on ne ratera pas ceci ou cela, parce qu'il faut absolument. Et ce sont des êtres humains qui sont devenus des idoles et qui ont pris notre cœur. Et nous sommes, nous, chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, qui nous sommes rachetés à une nouvelle vie, eh bien nous nous sommes laissés attacher et prendre à ces choses-là. Je peux vous dire, je ne veux pas passer pour le meilleur chrétien, mais je me rappelle avoir eu des idoles, hein, et peut-être que j'en ai encore, je vous laisse le soupçon. Mais je me rappelle, j'achetais un album de bande dessinée dès qu'il sortait. Hein. Ah, ça, je l'achetais. Hein. Et puis, un jour, je n'ai pas eu la paix pour le faire. Et ça a été dur. J'ai dû renoncer. Et j'ai compris que cette chose-là était une idole dans ma vie. Que ça prenait de la place dans ma vie. Et quelle paix le Seigneur m'a donnée quand j'ai dit non. Cette fois-ci, je ne l'achèterai pas. C'est quelque chose, vous savez. Les idoles se cachent dans notre vie. Et faites bien attention à ce qui a rempli votre vie. Mais vous connaissez cette histoire. On avait amené quelqu'un dans la grande banque des États-Unis et quelqu'un qui devait être un expert dans la détection des faux billets. Alors, on lui avait montré le musée où il y avait toutes sortes de plaques, de trucs, et ce que les faussaires avaient inventé pour fabriquer de la fausse monnaie. Et alors, il regardait et il disait, mais il faut que j'apprenne tout ça. Et l'autre, celui qui le faisait visiter, lui a dit, mais non. Vous n'avez qu'une seule chose à étudier, c'est le vrai. Si vous connaissez le vrai, vous détecterez toujours les faux. Vous n'avez pas besoin de connaître les faux. Parce que si vous connaissez le vrai, tout va bien. Alors vous connaissez, il a étudié, bon après mon histoire s'arrête là, j'imagine qu'il a étudié les vrais dollars, et quand il y a eu des faux qui se sont présentés devant lui, eh bien il a su les détecter tout de suite, parce qu'il connaissait le vrai. Et donc ce n'est pas toutes ces idoles et tous ces dieux de ce monde, mais vous les détecterez plus facilement si Jésus-Christ prend la première place dans votre vie, et vous direz non, ça c'est... Ce n'est pas bon. Je me rappelle le premier pasteur que j'ai rencontré dans ma vie. C'était un Canadien. C'était un Indien, en fait. Un Indien de Canadien. Il était... il avait plus ses origines indiennes qui se paraissaient dans sa personne. Et je l'aimais beaucoup. Et cet homme, un jour, mes parents, en apprenant qu'il était Canadien, lui ont dit, « Oh, on a des livres canadiens qui se passent au Canada. » Et on aimerait bien vous les prêter. Alors, ils ont apporté les livres, ils ont dit, oh, regardez, Et il a regardé les livres, il a dit, non, je ne peux pas les accepter. Mais il n'y avait rien de mal dans ces livres, hein. C'était des livres même très moraux. Il a dit, non, je ne peux pas, parce que j'ai peur de me laisser attacher. Il avait peur que quelque chose le détourne, un tant soit peu, de Jésus-Christ, pour une petite seconde. Mais c'était un homme de Dieu, c'est un homme qui avait vraiment vécu pour Christ et qui a marché jusqu'à la fin de sa vie pour Christ. Il était un très grand prédicateur. Il avait beaucoup de puissance. Quand beaucoup de personnes se convertissaient, l'église, c'est la première église que j'ai fréquentée, nous étions tous les dimanches 300 à 400 personnes. Cet homme avait consacré sa vie, il avait fondé une mission, il y avait des œuvres partout dans les Antilles. Il était même allé au Suriname pour fonder un autre poste missionnaire. C'était quelque chose de grand, parce que sa vie était consacrée à Jésus-Christ. Il ne se laissait détourner ni à droite, ni à gauche. C'était Jésus-Christ. Il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Christ. Ce sont deux chemins qui marchent, non pas parallèlement, parce qu'ils sont divergents. Jésus-Christ va dans une direction, le monde va exactement dans l'autre. Ils ne se rejoignent jamais. Ils ne peuvent pas se rejoindre. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit du monde et l'esprit de Jésus-Christ en même temps dans votre vie chrétienne. C'est impossible. Il faut qu'il y ait l'un ou l'autre. C'est un choix. Un jour, dans votre vie chrétienne, vous devez avoir résolu ce choix. Et je peux vous dire que le jour où vous décidez de faire ce choix, c'est un combat. C'est un Gethsémané. C'est la tentation est forte de ne pas renoncer au monde. Parce que le monde prend de la place et le monde s'impose. Vous croyez que vous êtes libre par rapport au monde. Vous ne l'êtes pas. Il vous tient prisonnier. Et c'est un dur combat que de dire non. Ça, c'est du monde. Ce n'est pas pour moi. Et si vous vous laissez prendre par le monde, c'est un serpent. Vous ne pouvez pas jouer avec un serpent venimeux, parce que un jour ou l'autre, vous risquez de vous faire mordre. Il y a des gens qui jouent des jeux dangereux, et jouer avec le monde est un jeu dangereux, parce que ce monde captive votre cœur, le prend insidieusement, fait des conquêtes dans votre vie, et vous ne vous rendez pas compte. Le terrain qu'il gagne jour après jour quand vous jouez avec le monde, il prend de la place dans votre vie, il vous saisit. C'est l'amour du monde est inimitié contre Dieu. S'il n'y a pas de possibilité de réconciliation, c'est le monde est opposé à Dieu. Il y a un esprit du monde et il y a un esprit de Christ. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre ensemble. Hein. Je me rappelle quand j'étais enfant, mon père m'avait expliqué une règle de géométrie. Ah, je vous la passe parce qu'elle vaut la peine. Les droites parallèles ne se rencontrent jamais. Vous connaissez? Bon. Avec mon esprit tordu, j'ai essayé de les faire rejoindre, bien entendu. Alors j'ai. Mon peu de science en géométrie m'a prouvé que si les droites parallèles se rejoignaient, elles cessaient d'être parallèles. Donc j'ai renoncé à me couronner de gloire en découvrant comment les parallèles pouvaient se rejoindre. Donc voilà, j'ai cessé de me poser la question. Mais le monde et Jésus-Christ ne sont pas parallèles. Ils sont divergents. Il n'y a aucune possibilité. Si dans les parallèles il y avait une possibilité, elles marcheraient en fait dans la même direction. Pas tout à fait ensemble, mais dans la même direction. Mais là, ce sont des droites divergentes. Chacun va de son côté. L'un va dans un sens, l'un va dans l'autre. Et c'est ce que David disait. Ces idoles, je ne les ai pas acceptées. Je les ai refusés. Et le peuple d'Israël, malheureusement, eh bien, avait une tendance, oh, pas tous, hein, il y avait aussi le peuple d'Israël fidèle qui, lui, ne s'est jamais corrompu avec les idoles. Mais David voyait de son temps des gens qui adoraient en secret des idoles, parce que c'était un culte interdit en Israël, hein, et on risquait sa vie en le pratiquant. Mais il savait qu'il y avait des gens qui pratiquaient en secret le culte aux idoles. Mais il passait donc par le temple de temps en temps, parce qu'il fallait bien offrir des sacrifices. Donc il y avait deux cultes. Il y avait un culte des idoles et un culte au vrai Dieu. Où il y avait. Le culte n'était pas aussi flagrant, aussi avoué. C'était certains, de temps en temps, ils adoraient le vrai Dieu. Et peut-être que en faisant une petite offrande à ce Dieu, peut-être ça peut aller encore mieux. On se le mettait de son côté. Vous savez, les Romains, quand ils allaient ont conquis beaucoup de peuples. Mais avant de conquérir un peuple, eh bien, ils faisaient des sacrifices au Dieu de ce peuple. Voilà. Et ils lui construisaient même un temple au Dieu de ce peuple, à Rome. Comme ça, ils se le mettaient de leur côté. Mais ils faisaient un gros sacrifice, hein, pas des petites choses, pas des broutilles. Hein. C'est vraiment, ils y mettaient la dépense. Voilà, c'est comme cela que beaucoup de personnes agissent. On se naît dans le monde, on fait des sacrifices au monde, on se laisse aller dans le monde. Ces choses-là prennent de la place. Parce qu'on se dit, après tout, ça peut nous aider. Ça peut nous être favorable, ça nous donnera des avantages. Mais tous ces avantages qui vous font diminuer Jésus-Christ dans votre vie sont des pertes. Vous avez perdu. Jésus-Christ n'est plus le premier. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place dans votre vie. Et ça, c'est dangereux. C'est pour cela que David dit, je ne mets même pas leur nom sur ma langue, sur mes lèvres. Hein. On court après ces dieux, mais moi, tout ça, je ne veux pas en entendre parler. Je refuse totalement. C'est ce qu'ils appellent bien, eh bien, je l'appelle mal. Ce qu'ils appellent mal, je l'appelle bien. Parce que ce monde est corrompu et pervers. Nous croyons-nous que tout va bien, que ce monde, eh bien, a une certaine sagesse et que finalement, tout cela, un jour, bon ben, tournera bien. Ne croyez pas cela. Le monde est pervers et il est corrompu. Il y a ce qu'on pourrait appeler de bonnes choses, mais n'y attachez pas votre cœur. Ne laissez pas gagner votre vie par ces choses-là, parce que c'est mauvais. C'est mauvais. Alors, comme je vous ai dit, il y a le vrai billet, celui auquel nous devons nous attacher. Et celui auquel nous devons nous attacher, c'est Christ. C'est Christ qui doit prendre la première place. C'est lui qui doit être Seigneur de notre vie. C'est lui vers qui nous devons tourner les regards. Et David disait: Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Est-ce que nous le disons? Est-ce que nous disons à Dieu, tu es mon bien, tu es ma joie, tu es tout ce que je désire? Je peux tout perdre dans la vie. Si je gagne Jésus-Christ, j'ai tout gagné en fait. Si j'ai perdu Jésus-Christ et que j'ai gagné tout le monde, en fait, j'ai vraiment perdu. Et combien de personnes ont cru avoir gagné dans ce monde et ont perdu? Ont perdu leur paix, ont perdu leur joie, ont perdu leur communion avec Dieu, ont perdu la proximité de Jésus-Christ. Ils ont perdu l'oreille attentive de Jésus-Christ. Ils ont perdu Jésus-Christ comme ami, Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie, Jésus-Christ comme leur bien suprême. Parce que ils ont accepter un compromis. Ils ont accepté, ben, oh, ça se fait, tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait, pas vous. Le monde aime ce qu'aime le monde. Et les chrétiens aiment ce qui est chrétien, ce qui est Christ. C'est la joie de Christ. Et on peut dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon souverain bien, tu es ma joie parfaite, tu es celui vers qui je me tourne. Tu es mon refuge en toutes circonstances. Je m'attache à toi. Je veux vivre pour toi. Est-ce que vous pouvez prononcer des paroles comme cela? Est-ce que vous pouvez dire à Jésus-Christ, prends toute la place dans ma vie, remplis ma vie, sois toute ma joie, tout mon bonheur, tout ce dont j'ai besoin. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mais le verset 3, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Malheureusement, les personnes qui marchent avec Jésus-Christ, qui veulent vivre pour lui, sont rares. Parce que beaucoup de personnes acceptent le compromis. Il y a l'un et l'autre à la fois. Mais là, David nous dit, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui ont ma proximité. Ce sont les personnes auxquelles je m'attache. Ce sont les personnes avec lesquelles j'aime avoir des discussions. Si vous avez des personnes qui aiment vous parler du dernier match de foot ou du film, de la télévision ou des machins comme cela, ce ne sont pas des amis, même s'ils sont chrétiens. Après, ce sont des frères en Christ et on les aime, hein, il n'y a pas de problème. Nous ne faisons pas de discrimination, nous ne rejetons pas. Mais on n'aime pas ce qu'ils disent. Ce sont des choses qui ne nous encouragent pas, qui ne nous fortifient pas. On ne parle pas de Jésus-Christ. On n'est pas attaché aux choses essentielles. Après, je sais qu'il y a une fausse piété. Il y a des gens qui disent, oh, hein, c'est Isaïe qui dit cela, ne m'approche pas, je suis saint. Hein. Il y a des personnes qui sont comme cela. On dit, non, 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 moi je ne. Mais c'est leur propre orgueil hein, qui est leur Dieu et c'est eux-mêmes. Ils aiment bien se faire entendre, se faire connaître comme étant des chrétiens supérieurs. Mais c'est la fausse piété, la fausse humilité, tout ça, c'est la fausse monnaie. Donc, on a vite fait de repérer parce que il y a les paroles et il y a les œuvres. Il y a les comportements. Donc, après, on peut dire beaucoup de choses et faire de belles professions de foi. Mais après, ce que nous sommes, c'est encore autre chose, hein. Et comme disait quelqu'un de bien connu, les Tartufferies. On a les livres de piété à la vue de tout le monde. Et puis les autres, ils sont sous clé. Hein. On les a bien enfermés et personne ne voit. On a notre piété qui est visible. Mais après, est-ce que vous priez avec autant d'ostentation chez vous que quand vous êtes vu de tout le monde, hein? Est-ce que vous priez avec de belles paroles dans votre particulier ou est-ce que c'est seulement devant tout le monde? Toute la question est là. Est-ce que vous lisez votre Bible aussi souvent chez vous que vous la lisez à l'église? C'est beaucoup de choses sont faites pour être vues, mais pas le cœur n'y est pas. C'est malheureusement, hein, c'est la fausse piété. Quand on rencontre des personnes qui aiment le Seigneur Jésus, qui est vraiment, qui a la première place, on s'attache à ces personnes. Ce sont les personnes, on aime leur proximité, on aime parler avec elles, on aime s'entretenir, parce que ces personnes-là aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est Jésus-Christ qui prend la première place, c'est lui qui est Seigneur. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. C'est pas, vous savez, notre frère Jean-Luc pourra le confirmer, mais Seigneur en hébreu, c'est Adonai. Hein. Mais les pratiquants du culte de Baal appelaient Baal Seigneur. Mais Baal, ça veut dire maître. Hein. C'est Seigneur ou maître. Hein. Qu'est-ce que j'ai, un seigneur ou un maître? Comment dire, quand David dit, je dis à l'Éternel mon seigneur, c'est-à-dire mon maître, celui qui domine dans ma vie. C'est celui qui prend la première place, celui à qui j'obéis, celui qui parle et ce qu'il dit a de l'importance pour moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ a dit, hein, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Combien de fois on peut se poser la question? Par contre, s'il s'agit du monde, on ne se pose même pas la question, on obéit tout de suite. Hein. Dès qu'il s'agit d'une passion ou qu'il s'agit d'une chose ou d'une autre, mais on ne se pose pas la question. Et si obéir au Seigneur, c'était comme nous obéissons au monde, mais nous serions de super chrétiens. On vivrait une vie chrétienne parfaite, merveilleuse. On fait les choses tellement facilement. C'est le verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Ce sont des paroles merveilleuses, vous savez, mais elles ne peuvent être prononcées que si Jésus-Christ est Seigneur de votre vie. Vous ne pouvez pas dire Jésus-Christ est mon partage dans la vie, c'est un héritage délicieux qui m'est échu, c'est mon lot, c'est ma portion dans ma vie, c'est ma joie, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tout le reste peut me manquer, mais Jésus-Christ, je le bénis tous les jours, c'est lui qui est mon conseiller, c'est lui qui m'exhorte, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me montre ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Il a pris la première place. Je l'ai constamment devant mes yeux. Même la nuit, mon cœur m'exhorte. Je pense à lui constamment. On pense à tellement d'autres choses. Et puis on dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vous voulez avoir la victoire sur le péché, sur le tout, mais il faut que Jésus-Christ soit le Seigneur de votre vie. C'est, vous savez, pendant des années de ma vie, j'ai essayé d'être un bon chrétien, comme beaucoup de chrétiens. Or, je ne tombais pas dans de grands péchés, mais il y avait quand même certains qui m'empoisonnaient l'existence. Alors je me disais, ça, il faudrait que tu ne le sois plus. Hein. Alors, vraiment, j'ai dit, ça, il faudrait que je le mette de côté. Après, les autres, je tâchais un ou deux en particulier d'y mettre toute mon attention. Et j'étais tellement attaché à lutter contre le péché que j'en devenais malade. Hein. Mais en fait, c'était morbide. Parce que c'est le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, toujours, qui était en premier dans ma vie. Parce que j'y pensais toujours, constamment. J'étais tourmenté. Mais un jour, j'ai compris une chose. C'est que si Jésus-Christ remplit ma vie, la question du péché se règle toute seule. C'est parce que je vous ai dit, on joue avec des serpents. Le péché, c'est un serpent. Le monde, c'est un serpent. Si vous le regardez, il vous fascine. Si vous êtes attaché, il vous captive. Il vous séduit. Il vous trompe. Mais si Jésus-Christ prend la première place, si c'est lui qui est Seigneur de votre vie, alors c'est lui qui vous captive. C'est lui qui prend votre cœur. C'est lui qui prend vos pensées. C'est lui qui vous réveille la nuit et qui prend la première place dans votre vie. C'est cela qui est important. C'est que Jésus-Christ prenne la première place. Le reste, c'est... Et quand j'ai fait cette découverte, ça a été pour moi un trait de lumière. Je me suis dit, mais tu t'inquiètes de la mort, tu t'inquiètes du péché. Et c'est le péché, le péché, le péché. Mais c'est Jésus-Christ qui doit remplir notre vie. C'est lui qui doit prendre la première place. Et ces paroles, le verset 5 jusqu'à 9, eh bien, c'est quelqu'un qui a mis l'Éternel en premier dans sa vie. Il dit tout cela. Dans le monde, tout ce qui est du monde, de ses idoles, ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'Éternel. C'est lui qui remplit ma vie. C'est lui qui prend la première place. Il prend tant de place dans ma vie qu'il n'y a pas de place pour le reste. Et puis le verset 9, je voudrais vous souligner, dans un être humain, c'est un corps, une âme et un esprit. Mais c'est ce verset qui vous le dit dans l'Ancien Testament. C'est car mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Vous avez donc ces trois parties qui se retrouvent dans l'Ancien Testament. C'est le psaume 16 et donc le verset 9. Et puis, tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. C'est toi qui me montreras le bon chemin. Il y a un chemin de la vie, il y a un chemin de la mort. Et si vous choisissez de marcher avec Christ, vous marcherez dans le chemin de la vie. Si vous êtes à l'écoute de sa voix, si lui-même vous exhorte et qu'il vous enseigne, s'il vous parle, il vous conduira dans le chemin de la vie. L'autre chemin, c'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la désobéissance. Le chemin de la désobéissance ne mène pas à une réussite spirituelle. Je peux vous dire, si vous avez choisi le chemin de la désobéissance, vous n'aurez pas de réussite spirituelle. Vous aurez des réussites matérielles, vous aurez des réussites dans votre confort, dans votre position sociale ou dans la possession des biens de ce monde. Probablement, parce que vous avez choisi ce chemin-là. Mais c'est un chemin de mort, parce que ce sont des choses mortes, des choses qui n'ont de valeur que matériellement et temporellement, c'est maintenant qu'elles ont de la valeur, mais éternellement, elles n'en ont aucune. Si vous avez fait ce choix-là, alors vous avez vraiment perdu. Parce que le choix, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin, c'est Christ. Et il faut que ce soit lui qui prenne la première place. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta gloire. Dieu nous donne des choses éternelles, Dieu ne veut pas nous tromper. Ce qui est matériel va disparaître. Je me rappelle, c'est quand j'habitais dans une cité à Perpignan, et le dimanche matin, je prenais mon petit déjeuner, et devant ma fenêtre, il y avait un homme et une femme qui adoraient leur Dieu. Alors Dieu, c'est une belle voiture. Alors, c'était une Simca 1100. Vous n'avez jamais entendu parler, ce Dieu est mort il y a bien longtemps. Mais bien sûr, même la marque a fait faillite. Donc il n'y a plus de Simca, ça n'existe plus. Mais il l'adorait tous les dimanches, matin. Il l'a nettoyé, briqué, elle brillait. Quelque chose de merveilleux, vraiment. Et puis un jour, surprise, ils étaient là, à la place parce qu'ils avaient une place de parking et la voiture était toujours garée là. Ils étaient là, comme ça, devant leur place de parking, vide. Leur Dieu avait été volé. Ah ! Tous les dimanches, ils adoraient ce Dieu-là. Et un jour, ils étaient consternés parce que leur Dieu a été volé. Mais avant d'avoir été volé, peut-être que s'il n'avait pas été volé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait ? Un tas de ferraille. S'il existait un tas de ferraille, parce qu'on recycle aussi, hein, il serait peut-être passé en boîte de conserve ou en tout ce que vous voulez. Parce que c'est les choses de ce monde. Il y a des délices éternelles à ta gloire, à ta droite. Ce que nos choix sont des choix pour l'éternité. Ce ne sont pas des choix temporels. Faites bien attention. Il y a des choses qui sont appelées à disparaître. Si vous attachez votre cœur à des choses qui disparaissent, qui sont appelées à disparaître, vous allez perdre. Et vous allez être déçu. Ou vous passerez à un autre Dieu. Tandis que quand Jésus-Christ prend la première place dans votre vie, quand c'est lui qui est vraiment le Dieu de votre vie, quand il est vraiment le Seigneur de votre vie, alors il y a des délices éternel à sa droite. Vous ne serez pas perdant, vous allez gagner. Mais même s'il fallait tout perdre, pourvu qu'on gagne Christ, c'est ça l'essentiel. Tout le reste peut disparaître. Christ, c'est notre ami, c'est notre soutien, c'est notre force, c'est notre joie, c'est notre consolateur, c'est notre conseiller, c'est notre soutien. C'est celui qui nous prend la main et qui nous conduit. C'est lui qui nous rassure. Celui qui a dit que c'est la voix du bon berger. Cette voix qui est inimitable. Cette voix que, quand vous l'avez entendue une fois, vous n'avez pas envie d'entendre d'autres voix. Les voix de ce monde peuvent crier, parler fort, elles peuvent vous dire des choses. Il y a cette voix qui vous parle doucement, avec tant d'amour, tant de douceur, tant de patience. C'est la voix du bon berger. C'est la voix de celui qui vous aime au point d'avoir donné sa vie pour vous, qui a renoncé à tout pour que vous puissiez être dans la joie, dans la paix, que vous puissiez être réconcilié avec Dieu. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Dieu de notre vie. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et je vous encourage à lire ce psaume, à le méditer, à l'approfondir et puis à conformer votre vie. Et mettre la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. C'est la lumière dans notre sentier. Et ce psaume est un bon rayon de lumière qui éclaire beaucoup de choses. Non seulement le psaume 16, mais je vous encourage aussi avec le psaume précédent, avec le psaume 15. Et méditez-les, mettez-les comme lumière dans votre vie. Et vous allez voir combien il y a de choses qu'il faut mettre en règle et qu'il faut résoudre certains problèmes. Et je vous laisse devant ces questions et devant ce choix.